Le mardi, vous le savez maintenant, on quitte la Terre, direction l'espace et les planètes. Jamais les exoplanètes n'ont été aussi proches. Le 24 août dernier, une équipe de chercheurs a révélé l'existence d'une planète autour de l'étoile Proxima du Centaure, à seulement 4 années-lumière et demie de notre Soleil. Une autre sœur jumelle de la Terre, la fratrie commence à être pléthorique de ces planètes sœurs jumelles, qui même à 4 années-lumière sont encore beaucoup, beaucoup trop loin pour que nous y accédions, les exoplanètes si loin, si proches. Alors Proxima B est-elle l'exoplanète de trop ? À quoi sert de dresser des listes de planètes hors de notre portée ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter de résoudre ce problème, nous sommes en compagnie de deux invités. Magali Deleuil, enseignante chercheuse au laboratoire d'astrophysique de l'Université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut universitaire de France. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes également avec Julien Morin, enseignant-chercheur au laboratoire Univers et Particules de l'Université de Montpellier. Julien Morin qui fait partie de l'équipe qui a donc découvert cette fameuse Proxima B, cette nouvelle sœur jumelle de la Terre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci à vous deux d'être autour de la table de la méthode scientifique. Alors pour commencer, je vais vous poser une question qui peut vous paraître peut-être un peu ingénue. Qu'est-ce qu'elle change pour nous, cette nouvelle planète Proxima B ? Elle est, je le disais à l'instant, à 4 années-lumière et demie, mais bon, 4 années-lumière et demie, c'est tout de même plus de 40 000 milliards de kilomètres de chez nous. On pourra vraisemblablement jamais aller la voir, pas plus que toutes les autres exoplanètes qu'on a détectées jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, Julien Morin ?
Alors, je pense qu'elle a deux choses de plus. La première, c'est peut-être un peu surprenant parce que c'est pas vraiment un argument scientifique, mais elle a un poids un peu symbolique. Puisqu'en fait, Proxima du Centaure, je pense que c'est une étoile qui fait partie un peu de notre culture, de notre imaginaire collectif. Quand des auteurs de science-fiction, quand des grands projets spatiaux dans le XXe siècle ont voulu étudier quelle serait la possibilité d'envoyer un vaisseau vers un autre système planétaire, vers d'autres étoiles, eh bien c'est souvent vers notre environnement proche qu'ils se sont naturellement tournés, donc vers le système d'Alpha du Centaure, vers Proxima du Centaure en particulier.
Qui figure dans plein de films récents, de voilà, littérature.
Exactement.
On peut citer Avatar par exemple.
Exactement,
qui se passe dans le
ou les romans d'Isaac Asimov dans Foundation. On a également le système d'Alpha du Centaure qui apparaît bien évidemment. Et la deuxième chose aussi, c'est plus pratique, et là c'est pour le coup un vrai argument scientifique, c'est que cette planète, elle est vraiment très proche de nous, en fait, à l'échelle de la galaxie, qui fait à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. 4 années-lumière, c'est vraiment notre voisinage. Et ça veut dire qu'on va être capable d'étudier, finalement, Proxima B beaucoup mieux que les autres exoplanètes qu'on a découvert jusqu'ici. On en connaît beaucoup, mais aucune, je pense, ne pourra être étudiée aussi bien, aussi complètement que Proxima B.
Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, à cet instant T, de cette planète ? À quoi elle ressemble ? Quelle taille elle fait ? Elle abrite de l'eau ? Elle est rocheuse, gazeuse ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors, pour être tout à fait honnête, ce qu'on connaît vraiment précisément, c'est assez limité, en fait, quand on fait ce genre de découverte. C'est-à-dire que la première chose, ce qu'on voit, c'est qu'on a un signal. On voit que cette étoile Proxima du Centaure va osciller régulièrement avec une période de 11,2 jours. Donc ce qu'on sait pour sûr, c'est que la planète, sa période orbitale, c'est-à-dire l'année sur cette planète, dure 11,2 jours terrestres.
Le temps qu'elle fasse le tour de son étoile.
Exactement. Deuxième chose que l'on sait, c'est sa masse. Alors, même sa masse, finalement, ce qu'on sait, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on mesure, c'est sa masse projetée. C'est-à-dire qu'on sait que sa masse est supérieure à 1,3 fois celle de la Terre. Donc ça nous donne une bonne indication que la planète est tellurique, qu'elle est composée de roches, comme la Terre, ou Mars.
1,3 fois, c'est quasiment la Terre. Hein,
voilà, c'est quasiment la Terre. C'est vraiment très proche. Ça fait partie, donc on la classe dans les planètes de type terrestre. Mais c'est tout ce qu'on connaît. En fait, on n'a aucune manière directe, par exemple, de mesurer sa composition.
Pour vous, Magali Deloye, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette nouvelle Proxima B, par rapport au reste des exoplanètes, par rapport aux milliers d'autres exoplanètes que l'on connaît, que l'on a identifiées aujourd'hui ?
Bien, effectivement, je crois que sa proximité, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Ça montre également tout l'intérêt qu'il y a à essayer de faire des détections autour d'étoiles qui soient proches de notre propre système solaire. Et effectivement, comme l'a dit Julien, c'est une première avancée pour peut-être, à défaut d'aller sur ces planètes, pouvoir en connaître les propriétés, savoir si certaines ont une atmosphère, si cette atmosphère peut présenter des similitudes par rapport à l'atmosphère de notre propre planète. Donc c'est effectivement un jalon et qui laisse beaucoup d'espoir pour des détections futures.
Alors, vous l'avez évoqué, Julien Morin, on a détecté Proxima B par, entre guillemets, l'ombre projetée à son passage devant son étoile. Est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui, on reparlera des méthodes de détection des exoplanètes dans quelques minutes, mais avant ça, est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui, du fait de sa proximité, de l'observer directement, cette Proxima B?
Alors, juste pour corriger en fait ce que vous avez dit, effectivement, parmi les deux méthodes les plus employées, celles qui ont rencontré le plus de succès ces dernières années, il y a celle qui consiste à voir passer la planète devant son étoile.
C'est la méthode dite du transit.
Voilà, c'est ce que fait par exemple le télescope spatial Kepler ou qu'a fait le télescope spatial Corot avant lui. Et là, nous, la méthode qu'on a utilisée, c'est la méthode dite des vitesses radiales.
D'accord.
Où donc, on avec un spectrographe, donc en décomposant la lumière de l'étoile, on arrive à voir que cette étoile oscille légèrement, que très régulièrement, elle va se rapprocher, s'éloigner de nous.
Et alors, est-ce que, je repose ma question, est-ce qu'il est possible, compte tenu de sa proximité, est-ce qu'il est envisageable d'avoir une observation directe de Proxima B?
Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, Proxima B est tellement proche de nous que finalement, c'est, je pense, la seule planète de type tellurique dans une zone habitable pour le moment, pour laquelle on a un bon espoir de pouvoir produire une image dans un temps raisonnable. Puisqu'en fait, si on regarde ce qu'on appelle la limite de diffraction des télescopes, c'est-à-dire le principe physique fondamental lié à la nature même de la lumière, qui limite la résolution, notre pouvoir de détecter des détails fins, il suffit d'un télescope d'environ 3-4 mètres pour détecter Proxima du Centaure. EB. En réalité, il va falloir utiliser des instruments un petit peu plus puissants parce que la limite fondamentale qu'il y aura sera d'une part l'atmosphère terrestre, qui est toujours un obstacle quand on observe depuis le sol, et également le fait que l'étoile étant beaucoup plus brillante que sa planète, eh bien, il faut arriver à masquer l'étoile pour arriver à faire apparaître la planète et arriver vraiment à la mettre en évidence. Mais effectivement, Proxima B, ça c'est déjà une chose qui est assez exceptionnelle, qui est assez incroyable et qui est un peu un rêve finalement pour tous ceux qui étudient les exoplanètes. C'est la planète pour laquelle, pour une planète dans la zone habitable, on pense qu'on va pouvoir, dans un temps raisonnable, une dizaine d'années, produire une image directe de la planète.
J'ai lu en préparant cette émission cette phrase que je trouve... qui donne pour nos auditeurs et pour tout le monde une idée de ce que signifie chercher une exoplanète dans l'espace et dans le fond spatial. Détecter une exoplanète, c'est comme voir la lueur d'une luciole au pied d'un phare de Brest quand on l'observe depuis Paris. Ça vous semble, Magali Deloye, assez raisonnable comme comparaison?
Tout à fait. Moi, je le mets même à Marseille, au large de Marseille, le phare. L'observateur étant apparu, mais absolument. Hein, c'est-à-dire, on essaie de détecter un signal qui est vraiment très faible et à côté d'une source lumineuse qui est particulièrement intense, et ça illustre toute la difficulté de la détection en fait, et le fait qu'il faut pousser toujours l'instrumentation dans ses retranchements, ce sont des choses qui sont particulièrement difficiles.
Alors Julien Morin évoquait à l'instant la notion de zone habitable. Je pense qu'il serait bon de refaire un peu avec vous une sorte de descriptif de ce que c'est qu'une zone habitable. Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche des exoplanètes? Et quel est le prototype, la fiche d'identité un peu caricaturale, un peu grossière des exoplanètes qu'on trouve aujourd'hui et des informations qu'on trouve aujourd'hui? Il y a combien d'exoplanètes qui sont recensées? Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon, Magali Deloye, de l'état actuel de la recherche sur les exoplanètes?
Alors, la première exoplanète a été découverte en 1995, celle, disons, avérée, qui avait des caractéristiques, ou dont l'étoile avait des caractéristiques semblables à notre Soleil. C'était ça qui était aussi intéressant, puisqu'il y avait quand même eu des détections autour de planètes autour d'un pulsar, c'est-à-dire une étoile très vieille. Bon. Et donc là, c'était Michel Mayor et Didier Queloz en 1995. Et cette première planète était en fait une planète qui avait à peu près la moitié de la taille de la masse de Jupiter.
À donc une très grosse planète à l'échelle de la Terre.
Avec une période orbitale de 4 jours et demi, c'est-à-dire très très près de son étoile. Et à la suite de ça, les découvertes se sont enchaînées. Et parce qu'en fait, ce sont les planètes qui sont les plus faciles, j'ai envie de dire, à détecter avec des méthodes dites... donc les vitesses radiales, comme le présentait Julien tout à l'heure, c'est-à-dire les perturbations gravitationnelles induites par la présence de la planète sur son étoile, eh bien on a détecté toutes sortes des planètes qui étaient très similaires à cette première planète 51 Peg B.
C'est-à-dire très grosse et très près du Soleil.
Exactement, de leur étoile. Hein.
Excusez-moi.
Mais
de leur Soleil.
Voilà, de leur Soleil. Et puis, à la suite de ça, on a commencé à aller plutôt dans les petites tailles ou les petites masses. Les plus grandes avancées de ce côté-là ont été faites certainement par la méthode dite des transits, hein, que vous avez présentée précédemment. Et donc là, les résultats surtout du télescope Kepler. Et on a trouvé toutes des populations de petites planètes, donc jusqu'à la taille à peu près de la Terre, mais également des planètes qui font 2-3 fois la taille de la Terre et qui sont aussi très près de leur étoile. Alors on commence à ouvrir la gamme de périodes orbitales pour les détections qu'on est capable de faire. Il faut simplement bien garder en tête que c'est pas parce qu'on les détecte pas qu'elles n'existent pas, c'est simplement qu'on est lié aux performances de nos instruments, au fait que si vous voulez détecter une planète qui a une période orbitale de plusieurs années, il faut être très patient, parce qu'il faut accumuler les données pendant des années. Et ça, c'est un travail de très longue haleine. Donc, ce dont on s'est rendu compte,
allez-y, continuez.
C'est qu'en fait, des planètes, elles ne sont pas toutes comme celles que l'on connaît dans notre propre système solaire. On a vraiment des caractéristiques très différentes. Et même parmi les petites planètes, on peut avoir des planètes qui ont des propriétés qui les apparentent à notre propre Terre, mais également des propriétés qui rappellent étrangement celles des géantes gazeuses. Donc, c'est assez paradoxal. Ça, c'est une chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout.
Par exemple, vous avez un exemple en tête ?
Oui, le système dit de Kepler-11. Alors ça, c'est pas très poétique, je suis désolé.
On va reparler des noms dans un instant, parce qu'il y a eu un projet pour nommer les exoplanètes. Mais allez-y, donc Kepler-11.
Donc, c'est une étoile qui possède tout un cortège de petites planètes. Et on s'est rendu compte également qu'en fait, il y a beaucoup de systèmes dans lesquels il y a plusieurs planètes, dans des systèmes très très compacts. Hein, en fait, plusieurs planètes qui ont des périodes orbitales inférieure à 100 jours, donc des choses qui n'existent pas dans notre propre système solaire. Et l'une d'entre elles, par exemple, a une densité qui est proche de 1, avec une masse qui est autour de la masse de la Terre, quoi. Donc ce genre de choses qui... donc un objet qui n'a pas d'analogue dans notre propre système solaire.
Parce que ce qu'on entend là dans ce que vous nous dites, Magali Deuil, et de ce qu'a dit Julien Morin tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on cherche des exoplanètes, pour le moment, celles qu'on trouve sont celles qui ont une période de révolution autour de leur étoile très rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait en mesure de détecter, si on était dans un autre système solaire, une planète de notre système à nous, avec des révolutions beaucoup plus longues, Julien Morin ?
Alors ça, c'est vrai que c'est la difficulté. En fait, ces méthodes, donc les deux méthodes dont on a parlé un petit peu, les vitesses radiales et les transits, toutes les deux vont être beaucoup plus sensibles à des planètes qui sont en orbite très courte, qui vont être vraiment en orbite très proche autour de leur étoile. Si on veut détecter des planètes telles que la Terre, comme le disait Magali, c'est vrai qu'on est obligé déjà de faire des observations très longues, puisqu'il va falloir observer au moins une année pour avoir une orbite complète et plusieurs années si on veut voir l'orbite se répéter et être sûr qu'on détecte bien une planète.
Il faut préciser qu'aujourd'hui, pour détecter une exoplanète, il faut qu'il y ait 3 passages devant l'étoile pour que ce soit validé. C'est ce que j'ai lu. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Magali Deleuil ?
Oui, disons, la détection, c'est une chose. Hein, on peut, avec deux transits, on a une période orbitale. C'est vrai que si vous avez le troisième transit ou la troisième révolution orbitale, même pour la méthode des vitesses radiales, ça vous valide la détection, effectivement. Mm. D'accord. Mais la détection, elle y est dès que vous avez même un seul transit. Mm. Vous dites, j'ai quelque chose. Bon, après, vous savez peut-être pas ce que vous avez.
Voilà, ensuite, il faut le valider. Il faut voir que ce ne soit pas des faux positifs. Mais oui, continuez, Julien Morin, sur cette... Est-ce que la possibilité de voir, de percevoir ou de détecter des planètes avec des révolutions beaucoup plus longues?
Alors, le problème va être notamment... Donc, si on regarde la méthode des transits, ça veut dire que les transits vont être très espacés. Et donc, il faudrait observer la planète pendant très longtemps l'étoile pendant très longtemps pour mettre en évidence une planète en orbite. Puisque c'est un peu le défaut de la méthode des transits, c'est que finalement... Il se passe quelque chose que pendant le transit. En dehors du transit, l'étoile paraît tout à fait normale et on ne peut rien mettre en évidence. Pour ce qui est de la méthode des vitesses radiales, là, on va toujours voir finalement cette faible vitesse de l'étoile due au mouvement orbital de la planète. Mais dans le cas d'une planète comme la Terre, le problème, c'est que ce mouvement va être extrêmement faible. Déjà, dans le cas de Proxima B, il faut voir que la vitesse qu'on mesure, c'est de l'ordre de 5 km par heure. Donc c'est vraiment rien, c'est vraiment la vitesse de quelqu'un qui marche. Vous voyez, une étoile, un objet aussi énorme qu'une étoile qui fait un dixième du Soleil, c'est-à-dire tout de même quelque chose comme 140 000 kilomètres de diamètre, eh bien on arrive à mesurer que cette énorme boule de gaz chaud, de plasma, est en mouvement à seulement 5 km par heure. Si on voulait faire la même chose pour des planètes comme la Terre, il faudrait descendre encore énormément et arriver plutôt à quelques centimètres par seconde. Donc là, c'est vraiment un défi à la fois pour la technologie, mais aussi pour notre compréhension des étoiles, parce qu'il y a non seulement le fait que notre instrument soit capable de détecter un signal aussi faible, mais aussi le fait qu'on soit capable de comprendre ce que l'on voit et qui est dû non pas à la planète, mais à l'étoile. Donc ça, c'est un peu, je pense, quelque chose qui est vraiment en développement très fort pour les exoplanètes. C'est vraiment de voir qu'on atteint la limite, finalement, liée à notre connaissance des étoiles et de comment elles vont influer sur nos mesures. Et donc, on doit vraiment mieux connaître les étoiles pour arriver à détecter des exoplanètes plus similaires à la Terre.
Oui, Magali Deleuil.
Si je peux compléter, en fait, ce qu'a dit Julien, on est capable aujourd'hui de détecter des planètes analogues à Jupiter, hein, autour d'étoiles similaires à notre Soleil. On a quelques cas comme ça où on a été, on est confiant sur la nature du signal qui est détecté. Le seul problème, c'est que là, les périodes orbitales sont de plusieurs années. Et donc, effectivement, il a fallu avoir accumulé les données pendant 15, 20 ans pour arriver à sortir ces signaux-là. Et après, effectivement, pour la Terre, le problème, c'est que le signal est encore plus faible, et donc beaucoup plus, même si la période orbitale est plus favorable, on va dire, il faut être capable d'arriver à trouver un signal aussi faible que ça.
Et puis, il y a une autre notion que vous avez manipulée tout à l'heure, Julien Morin, qui est celle de la zone d'habitabilité. Pour prendre l'exemple de Proxima B, donc une révolution très courte, hein, de 11 jours, ça veut dire qu'elle est a priori très près de son Soleil. Pourtant, on considère qu'elle est en zone d'habitabilité. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi cette zone-là est variable et qu'il ne faut pas forcément être exactement à la même distance que la Terre et du Soleil pour pouvoir abriter de l'eau à l'état liquide et donc potentiellement de la vie?
Alors cette zone d'habitabilité, déjà, il faut bien voir que c'est un terme un peu, c'est la convention qu'on utilise dans le domaine, on appelle ça zone d'habitabilité, on pourrait peut-être l'appeler plus zone tempérée. C'est la zone qui effectivement permet potentiellement à une planète, sous condition qu'elle ait aussi la bonne atmosphère, d'avoir de l'eau liquide à sa surface, parce qu'elle reçoit un flux lumineux de son étoile qui est le bon. Elle est ni trop proche ni trop éloignée. Ce qui va se passer avec une étoile comme Proxima du Centaure, c'est que c'est une étoile naine rouge, une étoile qui est beaucoup plus faible, beaucoup moins lumineuse que le Soleil. Sa luminosité, c'est environ 1/7 de la luminosité solaire. Et donc, ce qui veut dire que la planète doit être beaucoup plus proche de son étoile pour obtenir à peu près le même flux lumineux. Et donc, Proxima B, même si elle est seulement à 7 millions de kilomètres, même si elle est seulement à 1/20 de la distance Terre-Soleil, eh bien, elle ne va recevoir que 65% du flux lumineux reçu par la Terre.
Et cette zone d'habitabilité, donc, on voit par exemple, on envisage en ce moment dans notre propre système qu'il puisse y avoir des poches en dehors de la zone d'habitabilité, comme sur des satellites de Jupiter, dont on imagine que sous la couche de glace dans l'eau, il puisse y avoir des formes de vie bactérienne, microbienne. Ça fait partie, vous, des éléments que vous prenez en compte dans la recherche des exoplanètes ou pas du tout, Magali Deleuil?
Je pense que c'est un petit peu optimiste parce que c'est excessivement difficile, j'ai envie de dire. Je crois que le mérite de la zone d'habitabilité ou la zone tempérée, j'aime bien ce terme, c'est que Bon, ça permet d'avoir une idée relativement rapidement de bon, bah, ça pourrait être favorable à l'eau liquide et par ricochet, donc ce qu'on connaît aujourd'hui, on se dit bah c'est favorable aussi à l'apparition de la vie. Pour autant, on n'en sait rien. Et je crois que là aussi, où il convient d'être un petit peu humble entre guillemets, c'est qu'on s'est rendu compte que sur notre propre planète, en fait, il y a toutes sortes d'organismes vivants dont qu'on ne soupçonnait pas jadis, qui sont ce qu'on appelle les extrémophiles et qui ont besoin de conditions qui sont pour nous extrêmes pour faire tout leur cycle de vie. C'est-à-dire pas simplement bon bah les conditions de vie sont défavorables, l'organisme se met en mode d'hibernation en quelque sorte en attendant que les conditions redeviennent plus favorables pour reprendre son cycle de vie. Non, au contraire, là vraiment le cycle de vie s'effectue dans ce qui est pour nous des conditions extrêmes, c'est-à-dire très haute température
dans les fosses océaniques par exemple.
Les fosses océaniques, des milieux très acides, très basiques. On a même trouvé dans le réacteur de Tchernobyl des organismes qui sont vivants, effectivement, on ne comprend pas vraiment. Donc je crois que ça nous incite à nous poser la question de ce qui est la définition de la vie, ce qui est quelque chose d'excessivement compliqué déjà. Avoir une définition qui fasse le consensus auprès de tout le monde, ben, pour l'instant je crois qu'on n'y arrive pas, on trouve toujours des exceptions. Et puis savoir où chercher la vie et... quelles sont vraiment les conditions favorables? Est-ce que nous, on est capable de reproduire ou d'imaginer que toute forme de vie, c'est nécessairement des bons hommes avec deux jambes,
deux bras, une tête.
Exact. Mais en fait, les formes de vie sont certainement beaucoup plus diverses que ce qu'on peut l'imaginer jusqu'à présent. Donc, dans notre propre système solaire, on peut imaginer qu'il y ait des sites qui est permis l'éclosion de la vie. Après, est-ce qu'on serait même capable de la reconnaître? Ça, c'est autre chose.
Mais la recherche de la forme de vie, c'est ce qu'on a toujours en tête quand on est en train de scruter l'espace à la recherche de planètes, sœurs, jumelles ou non de la Terre, pour l'un comme pour l'autre, Julien Morin?
Alors c'est vrai que c'est un peu une question qui est toujours un peu sous-jacente. Et je réalisais en me demandant vraiment ce que j'en pensais récemment, que finalement, c'est presque pas tant... de découvrir de la vie sur une planète qui m'intéresserait, mais de comprendre comment elle a pu émerger, et en particulier sur une planète, par exemple, comme Proxima B, qui est tellement différente de notre planète et qui est en orbite autour d'une étoile tellement différente de notre Soleil.
Parce que, évidemment, même si elle est plus près, si l'étoile est une naine rouge, les conditions atmosphériques de gravité sont forcément extrêmement différentes à cette proximité de l'étoile, on suppose.
Exactement. A priori, par exemple, pour une première chose, il y a une étude d'ailleurs qui a été déjà publiée en même temps que la découverte de la planète, qui indiquait qu'a priori il est très probable que la planète soit synchronisée entre sa rotation propre et son orbite. C'est-à-dire que, tout comme la Lune montre toujours la même face à la Terre, eh bien, il est très probable que Proxima B montre toujours la même face à Proxima du Centaure. Ce qui veut dire qu'on aurait une moitié de la planète plongée dans la nuit perpétuelle et une moitié, au contraire, où il fait jour en permanence. Donc ça, déjà, ne serait-ce que ça, ce sont des conditions qui sont tout à fait différentes de ce qu'on a sur la Terre.
Magali Deloye, sur ma question précédente sur le fait d'avoir toujours à l'esprit l'idée que peut-être quelque part là-haut il y a une forme de vie autre, c'est quelque chose qui vous habite dans vos recherches un peu en permanence ou c'est quelque chose dont on finit par faire abstraction?
Oui, bien sûr, on fait abstraction, mais enfin quand même ça reste une question sous-jacente, je crois que peut-être même... Bon, je ne veux pas généraliser pour tous mes collègues astrophysiciens, mais oui, je crois que quand on fait de l'astrophysique, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu dans l'inconscient, mais je crois qu'aussi ça, c'est quelque chose qui est profondément humain, de se poser la question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Voilà, je ne pense pas même avoir une réponse sûre avant ma retraite, voire la fin de ma vie, mais bon, j'ai l'impression de contribuer d'une certaine façon à ma toute petite échelle à faire progresser la connaissance pour espérer qu'un jour on puisse savoir que bah oui, attends, tel point brillant, bah autour il y a une planète, on la voit pas, mais il y a peut-être une forme de vie.
Alors on a parlé des instruments qui permettent d'observer, de scruter l'espace, comme les satellites Corot et Kepler, on en reparlera dans un instant. Nous avons aussi, nous, un instrument dans la méthode scientifique qui nous permet pas de scruter le cosmos, mais de scruter le passé. C'est la base d'archives de notre partenaire le CNRS Images. Aujourd'hui, on va remonter en 1998 dans le film Au-delà des étoiles. Vous allez entendre la voix de Michel Mayer, l'homme qui a co-découvert la toute première exoplanète en 1995. Écoutez.
la grande leçon de ces découvertes récentes, hein, depuis 51 Pégase et toutes celles qui ont suivi, comment dire, c'est justement la découverte de la diversité des systèmes planétaires. Et ça, c'était pas vraiment attendu. Alors, est-ce que vraiment, si tout d'un coup, dans les années prochaines, on découvre, je sais pas, 1000 planètes, est-ce qu'on va vraiment leur donner des noms? Tout le monde connaît 51 Pégase. Est-ce que c'est vraiment futé maintenant de donner un autre nom après 2-3 ans? Ce qui fait qu'un peu le consensus avec Jeff Marcy, enfin avec les gens qui ont découvert différentes planètes, c'est que je crois qu'on va renoncer à leur donner des noms. Il me semble qu'on ne donne un nom qu'à quelque chose qu'on a vu. Cela dit, si j'avais dû en donner, hein, comment dire, lequel j'aurais choisi? En fait, j'aurais été tenté de donner un petit coup de chapeau posthume à Épicure, qui, voilà, plus de 2000 ans, hein, avait dit des choses remarquables. En fait, comment dire, il imaginait qu'il y avait une infinité de mondes possibles et qu'il en était très convaincu. Il le donnait d'un mode affirmatif, hein, il était assez convaincu que ça existait et qu'en plus, il devait y en avoir. Alors là, il était moins affirmatif qu'il devait être habité. Fabuleux, quoi. Imaginez Épicure assis sur un caillou au bord de la mer en Grèce et comment dire, pensant à ces choses-là il y a plus de 2000 ans.
Voilà la voix de Michel Mayer en 1998 dans le film Au-delà des étoiles. Vous retrouverez le lien vers cet extrait, vers ce film sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. J'aime bien cette phrase, on ne donne des noms qu'à ce qu'on a vu. C'est vrai que ces exoplanètes, elles ont des noms barbares pour la plupart. Hein. Julien Morin.
Alors c'est vrai que nous, ça ne nous choque pas tellement parce que c'est notre habitude. Toute étoile a une ribambelle de noms, souvent ce qui sont des numéros dans des catalogues. Et puis voilà, on rajoute une petite lettre quand on trouve une planète autour, B, C, D. C'est vrai que moi, ça ne me choque pas. Souvent, les astronomes disent, voilà, le numéro de téléphone de l'étoile 189-733. Voilà, c'est...
Magali Deleuil, ça vous choque pas non plus?
Oh non, absolument pas. Je suis exactement sur la même lignée que Julien. Et si on commençait à mettre des petits noms, là, je crois que je serais encore plus perdu.
Vous savez que ça a été le cas. L'Union Astronomique Internationale avait lancé un concours qui a abouti l'année dernière pour nommer en tout une cinquantaine d'astres, planètes et étoiles l'an dernier. Alors, il faut dire que les résultats sont assez variés. On a des noms comme Fafnir ou Rocinante, en passant par Mestli, Poltergeist ou Phobethor. Peut-être qu'effectivement, les numéros de téléphone, c'est pas plus mal. Je voudrais qu'on reparle un peu de cette première découverte. On était en 1995. Finalement, si tant est que ce soit un sport, c'est un sport récent, la chasse aux exoplanètes. Et ça a été, c'est une chasse qui s'est accélérée grandement à partir du milieu des années 2000, grâce aux satellites européen Corot et surtout au satellite Kepler. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que Kepler va arriver à la fin de sa mission à la fin 2016.
C'est fini.
Alors c'est la fin de l'analyse des données en 2016.
Non, la mission Kepler à proprement parler, qui était la mission originale, est déjà terminée en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est que bon, il y a eu un problème de Ruane.
Tout à fait. Il y a eu un gros problème et mais ils ont réussi à le remettre à peu près en état pour obtenir des données dégradées. Et normalement, de ce que j'ai lu en préparant cette émission, cette mission-là, K2, se termine en 2016.
Oui, et ce qui se passe quand même, et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la philosophie est complètement différente en même temps. Alors, c'est un mode relativement dégradé, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, on est en termes d'instrumentation, ils ont fait énormément de progrès pour arriver à contrôler le satellite en dépit du fait qu'il n'était plus dans le mode complètement nominal. Mais surtout, Kepler a observé les mêmes étoiles en continu pendant 4 années, en faisant des mesures du flux de la lumière toutes les, je ne sais plus comment c'était 8 minutes ou 30 minutes pour certaines autres étoiles, etc. Donc c'était déjà une jolie prouesse. Tandis que K2, la philosophie est différente, puisqu'en fait, on change le champ d'étoiles qui est pointé, change tous les, alors je ne me souviens plus si c'est 3 ou 6 mois, non, c'est 3 ou 4 mois en fait. Donc c'est quand même pas la même mission en fait.
Il faut préciser disait que pendant très longtemps, la NASA a pensé que Kepler était perdu corps et bien. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus rien faire du tout du satellite et qu'ils ont réussi effectivement à le reconfigurer pour malgré tout obtenir ces données dégradées. Peut-être un mot d'ailleurs sur sa dernière mission jusqu'à la fin de l'année. Kepler est à la recherche de planètes isolées, de planètes errantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ces planètes errantes, Magali Deloye?
Oui, je sais pas si c'est... disons que ce sont des planètes qui sont... Enfin, souvent, on peut définir une planète comme un objet qui n'est pas suffisamment massif pour produire de la lumière, contrairement à une étoile, d'accord? Et donc, en général, on voit les planètes comme notre Terre qui orbitent autour d'une étoile, mais il s'avère qu'il peut y avoir ce qu'on appelait les planètes errantes, qui sont des planètes qui ne sont pas liées par la gravitation à une étoile en particulier. Alors, il peut s'agir de planètes qui ont été éjectées de leur système planétaire lors de leur formation. Bon, j'avoue que je ne sais pas, un domaine que je connais particulièrement bien.
Ces planètes vagabondes ou ces planètes errantes, Julien Morin, en quoi leur, pour le moment, on n'en a pas encore trouvé ou observé, qu'est-ce qu'elles vous apporteraient, qu'est-ce qu'elles pourraient apporter comme information à l'astrophysicien que vous êtes?
Je pense qu'elle nous, ce qu'elle nous donnerait finalement, c'est un peu ce qu'on a déjà eu avec toute cette diversité d'exoplanètes, c'est de voir finalement quelle est l'étendue de la diversité des exoplanètes. Et tout comme Saint-Quentin Peck B a poussé les astrophysiciens qui s'intéressaient à la formation du système solaire à revoir complètement leur modèle pour
Pegasus intégrer... 51b qui est la toute première exoplanète découverte.
Exactement.
Par Michel Mayer en 1995.
Celle dont Michel Mayer était le co-découvreur. Donc c'est vrai que à chaque fois, ça nous oblige à revoir finalement nos concepts parce qu'on voit l'étendue de ce qui est possible. Après aussi, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi, à la base, je suis pas vraiment chercheur d'exoplanètes. Je suis physicien stellaire. Et ce qui me plaît aussi avec cette mission K2, c'est qu'on fait beaucoup de belles physiques stellaires. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on va observer à chaque fois dans ces missions de transit, c'est on va observer la lumière des étoiles. Et donc, on apprend énormément de choses sur ces étoiles. On va apprendre énormément de choses sur leur activité magnétique, sur la formation des étoiles. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que on arrive à apprendre énormément de choses. Même cette mission, finalement, si elle est un peu moins performante pour détecter des planètes, elle nous permet de faire énormément de choses aussi pour l'astrophysique en général.
Et une dernière question avant de passer à la deuxième partie de cette émission, et je m'adresse à vous deux d'ailleurs. Pourquoi est-ce que quand on découvre une planète comme Proxima B par exemple, on n'en découvre qu'une alors qu'on imagine que les systèmes comme le nôtre comportent plusieurs planètes? Est-ce qu'on peut confondre une planète pour une autre? Et pourquoi on n'en découvre pas 3, 4, 5 d'un coup? Julien Morin.
Alors ça va dépendre des systèmes, puisqu'il y a des systèmes en fait pour lesquels on découvre d'un coup plusieurs planètes. Par exemple, pour la méthode des vitesses radiales, ce qui va se produire, c'est que souvent il va y avoir un signal qui est dominant par rapport aux autres dans les mesures que l'on fait. Et par exemple, dans le cas de Proxima B, on a un peu des indices qu'il y aurait peut-être une deuxième planète dans le système. Mais pour l'instant, simplement, on ne peut pas le confirmer, on n'a pas les mesures nécessaires. Donc on va probablement refaire une deuxième campagne pour essayer de confirmer ça bientôt. The hatch is coming open. It's open. Verified. I'm moving outside. Okay, I'm letting go.
Scientifique Nicolas Martin.
16h33 sur France Culture. Nous sommes toujours en compagnie de Magali Deleuil, enseignante-chercheuse à l'université d'Aix-Marseille au laboratoire d'astrophysique et membre de l'Institut universitaire de France, ainsi que Julien Morin, qui est chercheur au laboratoire univers et particules de l'université de Montpellier, co-découvreur de la fameuse exoplanète Proxima B qui nous a occupés pendant cette première demi-heure d'émission. Mais avant de poursuivre notre conversation autour de ces exoplanètes et notamment de ce que nous réserve le futur de l'observation et de l'exploration spatiale, je vous propose de vous replonger dans la musique de l'espace grâce aux oreilles et au micro de Céline Lezenne. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Et vous êtes allé à la rencontre, alors il va falloir nous raconter un peu ce que c'est, d'un orchestre musical spatial.
Oui, un orchestre spatial, en l'occurrence l'Orchestre National Électroacoustique, plus connu sous le nom de One. Alors eux, ils ont créé un space opéra, l'Odyssée hyperphonique, une sorte de balade à travers le système solaire.
Alors, vous qui êtes physicienne, une physicienne éminente, Céline, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'il n'y a pas de son dans le vide spatial, qu'il n'y a donc pas de musique a priori.
Oui, effectivement, il n'y a pas de son dans l'espace, donc on ne peut pas écouter de musique à proprement parler. En fait, il s'agit d'une musique qui est basée sur des correspondances entre l'image et le son. Je vous explique. Grâce au méta-instrument, un logiciel qu'ils ont programmé eux-mêmes, ils projettent dans leur espace scénographique des images fournies par la NASA. Et à partir de ces images, ils improvisent ensemble le Space Opera. Une dynamique des astres à partir d'instruments tout à fait inédits qu'ils fabriquent eux-mêmes, métapiano, flûte augmentée, caliphone. Alors ça semble pas évident comme ça, mais vous allez comprendre, c'est très onirique. J'ai rencontré deux membres de One dans leur atelier à Rungis, Serge Laubier et Pierre Coupry. Ils préparaient leur prochain spectacle, vous pourrez les voir notamment lors de la Nuit Blanche au Musée de l'Homme, mais en attendant, écoutez.
On va écouter, oui.
Le SMUS est un lieu de fabrication de musique et de musique visuelle. C'est une structure qui a plusieurs activités, dont celle d'héberger un orchestre, qui est l'Orchestre National Électroacoustique, constitué de 7 personnes qui ont pour particularité d'avoir tous construit l'instrument sur lequel ils jouent. Et donc ça donne une singularité comme ça de cet orchestre qui est, je crois, unique au monde. Ça, c'est une magnifique souris. Ça mesure mes gestes par rapport à une souris qui va mesurer X et Y. Ici, on mesure 54 gestes. On va pouvoir les connecter. Alors là, par exemple, donc là, je marche avec mes doigts. Je peux changer. Et là, je me suis mis dehors. Voilà. Moi, je dis des fois, c'est un accordéon. Donc ça se porte presque sur le ventre. Il y a deux bretelles pour le retenir. Donc je peux déplacer ces deux bras de gauche à droite. Alors voilà, comme il est un peu vieux, il y a un petit peu de bruit de ressort. Ça, c'est mes deux poignets qui ont tendance à couiner un peu. Voilà. Un doigt manipule plusieurs touches en même temps. Là, je me déplace dans l'espace. Voilà. Avec mon pouce, je sélectionne un autre logiciel.
On a tous développé nos interfaces, donc j'ai aussi développé mon interface qui est à la fois un logiciel sur mon ordinateur et puis en même temps je travaille à partir d'instruments augmentés. Par exemple, j'ai une flûte dans laquelle j'ai un microphone et qui permet de transformer le son.
Il
le logiciel permet de projeter les vidéos en fait sur les écrans. Chaque musicien a un écran qui lui correspond.
On est parti de vidéos qui ont été publiées par la NASA. C'est des vidéos d'un voyage galactico-hyperphonique. en tout cas, dans le système solaire et même un peu plus. Palette sonore extrêmement riche. Bien évidemment, quand on est sur la planète bleue, c'est pas la même chose que quand on a des explosions solaires. C'est un drame. Quelque part, il y a une dimension proche du mythe d'Icare et donc de cette tentation d'aller voir ce qui se passe près du soleil. On imagine assez bien qu'une fois qu'on se rapproche du soleil, ça peut pas forcément bien finir.
Son imaginaire de l'espace, le space opéra, vous avez pu entendre dans la méthode scientifique les sons de la préhistoire, on vous fait entendre les sons de toutes les époques et même les sons qui n'existent pas. Est-ce que, Magali Delahaye, Julien Morin, est-ce que vous, quand vous scrutez l'espace, quand vous analysez ces données, parce qu'on vous imagine avec un télescope, mais vous êtes surtout derrière des écrans d'ordinateur à analyser des données, est-ce que vous imaginez une forme de musicalité ou de sonorité de l'espace ou pas du tout, Julien Morin ?
Je trouvais que j'essaye pas vraiment de représenter, d'associer une musique à ça. Par contre, je sais que c'est vrai que c'est quelque chose, manifestement, c'est une tentation assez ancienne de la part des musiciens d'essayer de baser leur musique sur des éléments de l'astronomie, voire même des fois des choses très concrètes, par exemple de transformer en son le signal d'un pulsar, la première détection des ondes gravitationnelles, ou encore certaines données captées par des réseaux de radiotélescopes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez courant. On a souvent cette tentation un peu de vouloir transformer finalement les signaux qu'on reçoit et qui sont un peu, dont on a du mal à faire du sens courant commun, en quelque chose d'un peu plus poétique, un peu plus accessible au sens. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui se fait beaucoup, d'essayer de faire de la musique à partir de l'astronomie.
Magali Delahaye, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un espace totalement muet. Non ?
Oui.
Je sais pas, ce sont peut-être mes seuls fantasmes à moi, mais on imagine qu'une comète doit faire du bruit, que s'approcher du soleil, ça doit faire du bruit, ça doit émettre un certain nombre de rayonnements, de vibrations, d'ondes qui peuvent se traduire en son.
Ben, en tous les cas, l'émission d'ondes, oui, ça c'est certain, en fait, les étoiles vibrent. Donc là, Julien pourrait même en dire probablement plus que moi, mais en fait, oui, il y a des tas de phénomènes physiques. Alors après, pour autant, est-ce que... Bon, ben, je crois que la transposition en musique et musique perceptible par nos oreilles, ça, c'est autre chose, en fait.
C'est de l'art.
Oui, tout à fait, c'est de l'art. Et j'ai même vu danser les exoplanètes et j'avais trouvé ça absolument remarquable. Pourquoi pas, en fait, c'est la façon dont on exprime aussi notre humanité.
De la même façon qu'il peut y avoir une forme de projection sonore ou musicale, est-ce que vous avez une forme de projection mentale ? Est-ce que vous dessinez des paysages mentaux sur des exoplanètes ? J'ai lu par exemple, je cite un article que j'ai lu tout à l'heure, une planète calcinée avec un océan de lave, une autre entièrement recouverte d'eau sur plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Est-ce que vous projetez ces images-là ? Et puis, plus généralement, jusqu'à quel degré d'information on peut aboutir sur ces planètes que vous découvrez les unes après les autres, Magali Delahaye ?
Alors, en fait, c'est une question intéressante parce que je fais régulièrement des conférences grand public et c'est vrai que, du coup, je montre des images qui sont des vues d'artistes, des choses comme ça. J'essaie chaque fois bien préciser que ce ne sont pas des vraies images astrophysiques, des vraies images sur lesquelles nous travaillons, les vraies données. Et quand on montre les vraies données, je pense que le public d'abord a souvent du mal à comprendre un petit peu. Et puis, il ne voit pas la même poésie que nous. Moi, je trouve qu'une courbe de vitesse radiale comme celle de Proxima B, c'est joli, quoi. Oui, je vois certainement des choses que d'autres ne voient pas, mais au même titre qu'à la limite, j'ai envie de dire, un musicien professionnel, quelqu'un qui est vraiment musicien, entend des sons que moi, je ne perçois pas, en fait. Ça, c'est chacun a le petit travers de son métier, de sa passion.
Julien Morin, dans l'analyse des données, que ce soit par les vitesses radiales ou par le transit que vous pouvez obtenir en observant les exoplanètes, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire, oui, celle-là, est tellurique, c'est une chose, mais celle-là a un océan à sa surface, quel est le degré d'information qu'on est capable d'obtenir aujourd'hui sur la composition et la nature de ces planètes?
Alors c'est ça que je trouve qui est intéressant pour revenir un peu sur cette idée de la représentation. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça pour faire passer un peu notre science vers le grand public, d'essayer de donner une représentation de ce que pourrait être la vue d'un paysage sur ces planètes. Et c'est intéressant parce que finalement c'est un exercice qui mélange un peu à la fois l'art et la science. On essaye de donner un peu des contraintes sur ce qu'on sait, souvent assez peu de choses finalement sur ces planètes, comment ensuite ça peut inspirer des artistes pour produire des vues un peu de ce qui existe. Par exemple, pour Proxima B, l'Observatoire européen austral avait produit quelques vues. Comme ça, on voyait par exemple Proxima, donc qui est le soleil de cette planète, qui apparaît rouge et énorme dans le ciel, et on voyait deux étoiles très brillantes qui étaient Alpha du Centaure A et B. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose d'intéressant. On voit effectivement, on a des informations précises sur un peu ce qui serait différent dans les paysages de ces planètes.
Il faut préciser que le système Alpha du Centaure, en fait, est un système à trois étoiles. Alpha A, Alpha B et Proxima qui tournent.
Voilà, c'est un système hiérarchique. Ouais. Donc on a exactement Alpha A et B qui sont des étoiles à peu près comme le Soleil, qui sont très brillantes vues de la Terre, et Proxima qui est un petit peu plus loin. Et donc ces deux étoiles, Alpha du Centaure A et B, vues de Proxima, seraient les étoiles les plus brillantes du ciel.
Mais est-ce qu'en analysant les données, un certain nombre de données, quelles soient d'ailleurs, qu'elles soient radiales, qu'elles soient infrarouges, enfin bref, on peut aujourd'hui obtenir un peu plus d'informations sur la composition, sur la nature de ces planètes, Magali de l'œil ?
Je vais préciser une chose, en fait, quand on fait ces détections, et ce qu'on appelle même après la caractérisation, en fait, la méthode des vitesses radiales permet de mesurer la masse, d'accord ? La méthode des transits, elle, permet d'avoir le rayon de la planète. Donc, idéalement, si vous voulez connaître la nature, savoir si votre planète est plutôt rocheuse, plutôt gazeuse, etc., ce qu'il faut savoir, c'est deux mesures pour la même planète, parce que vous pourrez dire, telle planète avec telle masse et tel rayon, eh bien on voit que sa densité moyenne, eh bien c'est similaire à celle de la Terre, ou au contraire c'est similaire à celle de Saturne, pourquoi pas, ou des choses comme ça. Donc c'est toute l'information dont nous disposons aujourd'hui. Ensuite, vous comparez la densité, cette densité de la planète, sa masse, son rayon, etc., à des modèles de structure interne. Vous pouvez aller un petit peu plus loin et vérifier ou faire des prédictions sur ce que pourrait être la proportion d'eau dans l'intérieur de la planète, par exemple, des choses comme ça. Mais vous voyez que la mesure à proprement parler, ce sont vraiment à proprement parler que deux paramètres, et après on se réfère à des modèles. Pour ce qui est de l'atmosphère, là c'est encore beaucoup plus difficile. Les cas de planètes pour lesquelles on a des détections de un composant atmosphérique, etc., reste rare. Ce sont souvent des détections qui sont très controversées. C'est dans les conférences exoplanètes, ce sont des présentations qui donnent lieu à pas mal de discussions et qui sont assez remises en question. Donc, on est vraiment juste au début des analyses qu'on est capable de faire sur ces planètes lointaines.
La méthode scientifique. Nicolas Martin.
Et à 16h47, on va s'intéresser précisément dans la lignée de ce que vient de nous dire Magali Deleuil à la suite, à l'avenir, à la façon dont on va pouvoir aller plus loin, à mieux connaître encore ces exoplanètes. Pour commencer, j'aimerais vous poser tout de même une question sur ces détections. Vous disiez à l'instant, Magali Deleuil, que certaines observations, que certaines extrapolations sur éventuellement la présence d'un composé chimique donnaient lieu à beaucoup de controverses. Il y a eu aussi, dans l'observation des exoplanètes, beaucoup de faux positifs liées à des doubles étoiles, à des variations de rayonnement, à des taches solaires. Aujourd'hui, est-ce que sur les 3158 de mémoire exoplanètes que l'on a recensées, on peut être sûr et certain qu'il s'agit bien de 3158 planètes, ou est-ce qu'on va encore republier des listes de démentis en retirant 1500 de la liste, à votre avis, Julien Morin?
Donc c'est vrai que, par exemple, pour les détections par la méthode des transits, la détection se fait en deux étapes. On détecte le transit, et puis ensuite, on essaye de confirmer ce transit, notamment avec la méthode complémentaire, la méthode des vitesses radiales. Ensuite, même la méthode des vitesses radiales, même si elle est considérée comme étant ce qui permet de confirmer la détection, n'est pas infaillible et effectivement peut être perturbée par notamment l'activité de l'étoile. Mais ça, c'est quelque chose qu'on prend de plus en plus en compte et qui est directement dans l'analyse, dans la découverte, de la publication de la découverte. On essaie de prendre en compte ces phénomènes et de s'assurer vraiment qu'on arrive bien à faire le distinguo entre ce qui provient vraiment de l'étoile et ce qui est dû à la présence d'une planète.
Alors, on a parlé tout à l'heure de Kepler, de ce satellite qui est en orbite, il faut le préciser, autour du Soleil et non pas autour de la Terre, qui a permis l'observation et le recensement d'un grand nombre d'exoplanètes. Il y a plusieurs programmes qui vont venir prendre la relève dans pas très longtemps. J'aimerais qu'on en dise un mot et de ce qu'ils vont permettre de plus pour vous dans les matériaux de recherche que vous allez pouvoir avoir à votre disposition. Le premier, c'est un satellite américain, TESS, en 2017. Julien Morin, vous avez un mot sur TESS, sur orbite terrestre, et qui va observer un champ peut-être un peu plus large que Kepler, mais sur des temps très courts.
Alors, TESS, effectivement, ça va être finalement une mission assez similaire à Kepler dans le principe. Mais la limitation finalement principale de Kepler, ça peut paraître paradoxal, mais c'est qu'on utilise un télescope qui a un grand diamètre et qui permet de voir des étoiles très faibles. Et après, pour lesquelles il va être difficile même ne serait-ce que de confirmer la planète et a fortiori de la caractériser. Donc l'idée des missions qui viennent ensuite, TESS ou d'autres peut-être que vous allez mentionner ensuite comme Plateau, ça va être au contraire d'avoir des détections par la méthode des transits autour d'étoiles qui soient suffisamment brillantes pour pouvoir les étudier en détail. Mmh. Et aussi, ça rejoint ce que je mentionnais juste avant, l'une des idées qui a vraiment émergé, c'est la nécessité de bien comprendre les étoiles pour bien comprendre les planètes. C'est vraiment un système étoile-planète, et il faut comprendre les deux composantes en même temps.
Magali Deloye, sur la suite, donc il y a TESS, il y a effectivement, comme vient de l'évoquer à l'instant Julien Morin, le programme Plateau, qui n'est pas attendu avant 2024, mais qui est un programme européen.
Oui, alors en fait, on a, avant même Kepler, identifié, avant même, je pense, le tir de Corot, qui était une petite mission
européenne aussi.
Absolument, et même initialement française, on avait identifié le fait qu'on allait observer des étoiles quand même très lointaines, donc faibles, avec toute la difficulté que ça pouvait induire derrière pour confirmer les planètes, pour surtout arriver à connaître leurs propriétés, à déterminer leurs propriétés. Donc on avait tiré déjà ces conclusions, donc, et les nouvelles générations de manip spatiales, c'est-à-dire tests du côté américain. Il y a également une toute petite mission de l'ESA.
Kéops,
qui va voler quelques mois après TESS.
Qui part en décembre 2017, normalement. Lancement prévu en décembre 2018.
C'est juin 2018.
Ah, bah, ça a été repoussé alors.
Oui, non, mais bon, disons, ça c'est normal en fait. Ah, bon, c'est un peu complexe et ça fait partie du. Des missions spatiales habituelles, en fait. Et donc, IMEL, qui va être vraiment un observatoire, c'est-à-dire on observe une seule étoile à la fois, et on peut pointer sur une étoile bien particulière. Et donc, là aussi, on vise des étoiles brillantes. Et puis, plus ambitieux, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est la mission Plateau, la 2024, fin 2024, et qui est, si vous voulez, Kepler, c'est-à-dire on va observer le même champ d'étoiles pendant 3 ans, en continu, avec une mesure du flux de dizaines de milliers d'étoiles toutes les 32 secondes, quelque chose comme ça, ou une minute, et que des étoiles, essentiellement des étoiles brillantes, avec pour objectif, du coup, puisqu'on a 3 ans d'observation en continu, de pouvoir détecter les signaux, les transits de planètes similaires à la Terre, c'est-à-dire 1 an de période orbitale, et autour d'étoiles proches, de telle sorte qu'ensuite on puisse continuer à les détecter, à les caractériser, à déterminer leurs propriétés, pourquoi pas essayer d'avoir de connaître leur atmosphère. Est-ce qu'elles ont une atmosphère? Quels sont les principaux composants de l'atmosphère? Des choses comme ça.
Donc 2024. Alors vous confirmez 2024 pour le lancement de plateau, oui. A priori. Et donc j'ai lu également que les données ne seraient exploitables qu'après une dizaine d'années d'observation.
Les données seront exploitables dans les quelques mois qui vont suivre. Mmh. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que les cas les plus intéressants, c'est-à-dire de planètes comme la Terre, si on veut confirmer la détection par vitesse radiale et surtout avoir la mesure de la masse, eh bien, il va falloir les observer depuis le sol pendant des mois, voire 1-2 ans, etc. Donc, il va falloir faire énormément de mesures depuis le sol complémentaires. Et ça va prendre du temps. Mais non, pas 10 ans, hein, quelques années.
Julien Morin.
Oui, donc, et en parallèle de ces missions spatiales donc, qui fonctionnent sur le principe des transits, on va avoir aussi de nouveaux instruments au sol, donc des spectrographes, qui vont permettre de faire de nouvelles mesures de vitesse radiale, donc la méthode complémentaire. Et notamment, donc, ce dont on s'est aperçu, c'est que ces étoiles naines rouges comme Proxima du Centaure sont des cibles très favorables, en fait, si on veut détecter des planètes de type rocheuse, des planètes dans les zones habitables. Mais les instruments qu'on avait pour le moment étaient plutôt optimisés pour observer des étoiles de type solaire. Et donc là, on a une nouvelle génération d'instruments qui arrive. Hein. Par exemple, dès l'année prochaine, on devrait avoir à Hawaï un instrument qui est international, qui est construit principalement en France et au Canada en ce moment, l'instrument Spirou, et qui devrait nous permettre de découvrir beaucoup de nouvelles planètes du même type que Proxima B, finalement, des étoiles dans la banlieue solaire, en quelque sorte, qui sont donc des étoiles, qui sont des planètes rocheuses dans la zone habitable d'étoiles naines rouges.
Et vous pensez qu'avec ces nouveaux instruments, il est envisageable dans les années, dans les peut-être dizaines d'années à venir, de détecter des biosignatures autour de ces planètes-là, pour revenir à notre débat de tout à l'heure, Julien Morin?
Alors, mais par exemple, pour...
Des biosignatures étant des traces de vie, donc, de l'émission, comme sur Terre, pourquoi pas, de gaz à effet de serre.
Tout à fait. Voilà. Par exemple, pour revenir au cas précis de Proxima B, il y a déjà eu des études qui ont été publiées pour essayer de voir ce que pourrait faire, estimer ce que pourrait faire le satellite, du moins le télescope spatial JWST, le successeur de Hubble. Et donc, avant de pouvoir détecter des biosignatures, la première chose, c'est d'arriver à mettre en évidence vraiment expérimentalement des atmosphères sur les planètes telluriques. Après, pour les biosignatures, c'est assez compliqué parce qu'il faut arriver vraiment à identifier les molécules. Et aussi, même dans certains cas, on peut avoir des molécules qu'on associe habituellement à la vie, comme par exemple le dioxygène, mais qui peuvent être produites par d'autres mécanismes dits abiotiques, c'est-à-dire sans présence d'organismes vivants. Donc ça, c'est un débat qui reste encore assez ouvert.
Magali Deleuil, sur cette question des biosignatures, vous y croyez? Vous êtes confiante, vous?
Oui, je pense que ça se fera, en fait. Après, sur quelle échelle de temps, moi, je crois que c'est pas simple. Comme l'a dit très bien Julien, c'est pas dépourvu d'ambiguïté. Hein. Vous savez pas non plus quels seront les meilleurs traceurs qui permettront de conclure. Et puis, là aussi, je pense que avoir des planètes en transit, ce sont les planètes vraiment les plus favorables pour la détection des atmosphères. Parce que justement, au moment où la planète passe devant son étoile, le rayonnement de l'étoile va traverser l'atmosphère. Et donc va laisser son empreinte dans la lumière de l'étoile. C'est aussi l'intérêt de ces missions spatiales dites de nouvelle génération pour les transits, en fait.
Et puis ça va nous permettre également à terme quelque chose de beaucoup plus pragmatique, mais de beaucoup plus intéressant pour vous, certainement. C'est une cartographie très détaillée des systèmes voisins qui est envisageable, Magali Deleuil?
Oui, certainement.
En fait. Vraiment, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on évolue dans un espace, en termes de planètes en tout cas, pour le moment, dans le noir. On connaît les étoiles autour de nous, mais on ne sait pas du tout s'il y a du monde autour de ces étoiles.
Oui, disons, dans les étoiles qui sont visibles à l'œil nu,
À part Proxima B.
Proxima B, on n'est pas capable de dire, tiens, celle-ci, il y a une planète autour qui qui ont telle et telle caractéristique. Ça, on ne le sait pas. On pense qu'elles y sont, mais par contre, on n'a pas la preuve directe de leur existence.
Julien Morin, vous êtes confiant sur cette future carte IGN de notre environnement spatial proche?
C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait réussir à faire. C'est vrai que c'est vraiment l'objectif de ces nouveaux instruments. Alors malheureusement, Proxima B, pour Proxima, elle n'est même pas visible à l'œil nu, en fait. La boîte est tellement proche de nous, elle est tellement faible, tellement peu lumineuse que ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que pour la plupart des étoiles qu'on voit, on ne sait même pas si elles ont des planètes. Donc ça va vraiment nous permettre de mieux comprendre notre environnement finalement galactique, savoir ce qu'il y a autour du Soleil.
De comprendre si le système solaire est une norme ou une exception.
Exactement, c'est ça la question un peu, c'est de savoir finalement quels sont est-ce qu'on est unique ou pas. C'est un peu finalement, Michel Mayor dans le reportage parlait d'Épicure, c'est un peu ça la question finalement toujours, c'est un peu cette dichotomie entre dans quelle mesure nous sommes finalement un système parmi d'autres qui est quelconque, et dans quelle mesure notre système est exceptionnel. Et c'est ça un peu qu'on essaye de comprendre.
Eh bien, pour conclure, c'est un très beau mot de la fin. Rêvons un peu au fait que nous soyons exceptionnels. Merci beaucoup, Magali Deloye. Donc, je rappelle, enseignante-chercheuse au laboratoire d'astrophysique de l'Université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut universitaire de France. Merci également à vous, Julien Morin, co-découvreur de cette nouvelle sœur jumelle Proxima B à 4,5 années-lumière de nous seulement, et chercheur enseignant au laboratoire Univers et Particules de l'Université de Montpellier. Mille merci d'avoir été nos invités dans la méthode scientifique.
Merci à vous.
Et merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Léo Quentin, Antoine Beauchamp et Ève Etienne, à la réalisation Elisabeth Miro et à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. Et demain, pour notre émission future, comme chaque mercredi, nous parlerons d'espionnage informatique et du projet Sauron. Ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est le super virus récemment identifié, extrêmement virulent et qui semble bien avoir été programmé par un État. Projet Sauron, la cyberguerre de Troie aura-t-elle lieu ? Telle sera la question que nous nous poserons demain. Dans un tout petit instant, deuxième dose de LSD consacrée à l'économie sociale et solidaire. LSD, la série documentaire de Perrine Kervran. Et nous, bien, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.